Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 21 novembre 2020. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
96e épisode du Guide de l'auto
tranquillement,
sur Cube Radio.
Hein? Tranquillement, on se rapproche de la 100e bougie.
Exactement. Bon, une annonce qui ne surprendra personne pour commencer l'émission cette semaine, mais le Salon international de l'auto de Montréal a finalement annoncé le salon virtuel qui devait avoir lieu et pour lequel on avait fait une entrevue avec Denis Dessureau.
Effectivement.
Aura finalement pas lieu, c'est annulé. C'est un projet dans lequel les constructeurs n'ont pas embarqué.
Exactement. Il n'y a pas eu d'engouement là, de la part des manufacturiers, ce qui est dommage parce que, bon, on aurait pu tenter l'expérience, mais ça n'a pas levé. C'était très embryonnaire quand Denis Dessureau était venu nous présenter l'idée. Et on l'aura essayé, mais c'est ça, ça ne verra pas le jour. Et c'est la même chose pour le Salon de l'auto de Toronto. Pas de salon virtuel, finalement. Donc, on se revoit en 2022.
On se revoit en 2022. Écoute, je t'avoue qu'on écoutait les arguments, on écoutait les idées des
organisateurs. J'avais pas d'étoiles dans les yeux, là.
Moi non plus. Je me demandais vraiment quelle espèce de lapin on allait sortir du chapeau pour faire en sorte que ce soit un événement attrayant. Je pense que les constructeurs automobiles ont eu un peu la même vision que moi parce que...
Et même pour tous les marchands, autres que les manufacturiers automobiles qui sont présents au Salon de l'auto, la formule qui était proposée n'était pas aussi emballante que celle d'être au Palais des Congrès.
Non, c'est bien sûr, c'est bien évident.
C'était un peu difficile.
Bon, chaque fois qu'on dévoile une nouvelle Honda Civic, c'est un événement.
Ouais.
On l'a fait cette année sur Twitch. En fait, on l'a fait cette semaine. Et Germain, comme je le disais la semaine passée, c'est ça, Twitch?
Ben, c'est une plateforme. c'est une plateforme numérique de diffusion en direct, de streaming aussi. Donc, on a dévoilé le prototype. Hein, de la Honda Civic.
Très réaliste prototype
oui,
de la Honda Civic.
Elle est prête à arriver chez les concessionnaires quasiment. Là. On est loin d'un modèle en argile. Et, donc, le modèle de 11e génération qui ressemble énormément à la Accord actuelle.
Ouais.
Puis oui, effectivement, c'est très évolutif comme design. On n'a rien mentionné pour ce qui est de la motorisation, des détails
techniques.
C'est-à-dire
oui et non, parce qu'on a quand même mentionné qu'une version Cyper reviendrait sur le marché, qu'une version SI reviendrait sur le marché. Donc, on aura droit à deux versions un peu plus performantes. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a confirmé le retour de la version hatchback. Et moi, j'avais peur que l'hatchback disparaisse parce que, bon, Elantra, c'est disparu. La Golf s'en va. Les voitures...
Les compacts à haillons, c'est plus... Les belles années sont derrière nous, là.
Mais, tu vois, Toyota a relancé la Corolla hatchback après des années et des années d'absence.
Ouais.
Et ça fonctionne relativement bien pour eux. Alors, Honda a décidé de continuer dans cette voie-là, mais le problème, c'est qu'on fabriquait la Civic Hatchback du côté de l'Angleterre et c'était une voiture qui était rendue pratiquement plus viable financièrement à vendre, surtout par rapport à berline qui est fabriquée chez nous. Et ça demeurera le cas, c'est-à-dire que la berline va continuer à être fabriquée à Alliston, en Ontario. Quant à la version Hatchback, la production sera rapatriée du côté des États-Unis, ce qui va finalement faire en sorte qu'on va pouvoir avoir cette voiture-là à prix plus compétitif que par le passé ou même en ce moment. Parce que tu vois, je faisais des exercices de comparaison entre une Civic 2020 hatchback actuellement et une GTI ou une Mazda 3 GT à traction intégrale.
Puis c'est pas intéressant.
Et seigneur, la Civic n'a pas l'avantage.
Et pourtant, le modèle est en fin de carrière.
Oui, le modèle est en fin de carrière, mais c'est une voiture coûteuse à importer.
Ouais.
Les taux d'intérêt location sont plus élevés. Alors, il risque d'avoir un nouveau souffle, mais on n'a pas vu la version hatchback. On a vu que la version berline qui conserve...
Et le coupé, lui, hein?
Ça disparaît.
Exactement.
Coupé, ça disparaît. Donc, on ne sait pas s'il y aura, par exemple, des rouages intégrales. Oh. On ne sait pas s'il va y avoir de version hybride. On n'a rien de ça.
Tout est encore à annoncer.
Et Honda est tellement généreux dans l'art de nous fournir l'information que...
C'est très opaque comme communication. Donc, une étape à la fois
À la fois. On va parler moteur maintenant parce qu'on en a mis tout un sous le capot du Jeep Wrangler. C'est-tu logique de mettre un V8 de 392 pouces cubes dans un Jeep Wrangler?
C'est audacieux, ça c'est absolument certain. Dans les derniers mois, le Ford Bronco a été dévoilé. Il a eu toute la lumière de tous les projecteurs de la planète, j'ai l'impression. Et le Wrangler, qui est finalement seul sur son marché, voulait probablement faire parler de lui et continuer de plaire à une clientèle en se renouvelant. Donc, on ajoute le moteur EMI 6,4 litres sous le capot du Wrangler dans sa version Rubicon c'est important de le mentionner. Rubicon à quatre portes parce que dans un Wrangler à empattement court, ça serait du sport, pas à peu près EMI, c'est ça. Donc, 6,4 litres, 470 chevaux, autant de livres pieds de couple.
Mais c'est lourd là dans un Jeep Wrangler,
oui,
ça
va lui faire un museau très, très, très pesant. Déjà, en termes de tenue de route, tu sais, sur une route, là, pas en
hors-route.
Est-ce que
tu es capable d'appeler ça comme ça, d'une tenue de route?
Tenue
de route et Jeep Wrangler dans la même phrase.
Oui, c'est ça.
Que...
Les gens le voyaient pas, mais j'utilisais les guillemets. Là. Ouais. Donc, ça va être très particulier à conduire. Ça devrait avoir une belle sonorité, franchement. Donc,
D'autant plus que c'est pas la machine la mieux sonorisée de la Terre. Là,
Non. Mais tout ça pour dire qu'on va avoir une gamme de moteurs très, très, très étendue parce que on a le 4 cylindres turbo, le V6 Pentastar, le moteur éco-diesel, une version hybride enfichable qu'on attend encore.
Oui, et que j'aurai la chance de conduire au milieu du mois de décembre la version 4XE. Ouais. Ouais.
J'ai hâte de voir ce que ça a proposé, cette version-là. Alors, je pense que c'est un signe que le Wrangler est un véhicule qui est, oui, populaire, mais aussi rentable là, pour la marque Jeep, quand on sort des versions qui ne finissent plus, finalement, c'est que ça amène de l'eau au moulin, là.
Puis j'en parlerai un petit peu plus tard, mais un Wrangler hyper équipé, on chevauche les prix de véhicules de grand luxe. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai mis le pied à bord du Land Rover Defender 110.
Ouais.
Je vous en parlerai un peu plus davantage la semaine prochaine. Mais écoute, les prix du Defender et de certains Wrangler se comparent. C'est vous dire à quel point la facture peut grimper de façon alarmante avec un Wrangler.
Un Wrangler Rubicon à moteur Pentastar, on est à 70 000, là.
Rajoute le diesel ou ton EMI, quelques accessoires.
On va être à 80, là.
Imagine-toi. C'est quand même de l'argent.
C'est des sous pour un Wrangler, là.
C'est surtout très, très, très lucratif pour la compagnie.
Oui, parce que c'est pas un nouveau moteur qu'on a développé. On a ça sur les tablettes, là, ce moteur-là.
Belle nouvelle qui est sortie cette semaine pour la BRZ. On l'attendait, là.
Oui.
Pour moi, c'est le fun parce que je la trouve magnifique, cette nouvelle BRZ de deuxième génération qui se faisait attendre depuis longtemps parce qu'écoute, ça faisait 8 ans que la voiture était à peu près identique. Et on a toujours critiqué le fait qu'il manquait un peu de puissance sous le pied droit. Semble qu'on règle en partie le problème.
On lui a injecté quelques chevaux supplémentaires, donc on passe de 205 à 228.
Mais avec un moteur qui a une plus grosse cylindrée, c'est ça la bonne nouvelle.
Exactement,
pour moi.
Parce que le moteur de la version actuelle, finalement, c'était un 4 cylindres, oui, mais de 2 litres. Et là, on passe à 2,4 litres. Donc,
mais dis donc, Germain, d'où vient ce moteur?
Est-ce que ce serait, par exemple, celui qui a été introduit d'abord dans l'Ascent, auquel on aurait retiré la turbocompression? Il y a bien des chances.
Est-ce qu'on pourrait éventuellement ajouter un turbo à ce moteur, Germain?
Ce serait une excellente idée. Hey, donc, avis aux planificateurs de produits chez Subaru.
D'après moi, ils y ont déjà pensé.
Au lieu de retirer, au lieu d'enlever ce qui est déjà là, laissez-le là, c'est-à-dire le turbo. Et là, ça serait...
Oui, mais c'est là, on n'a pas les prix, les détails, mais on va arriver avec une BRZ qui va probablement chevaucher les 30 000 $ comme modèle d'entrée de gamme. Puis, éventuellement, on arrivera avec une version turbo qui va se vendre à 40 000. T'sais, ça va ressembler à quelque chose de même, équipé. On va peut-être pouvoir jouer un peu plus là-dessus. Par contre, On n'a pas de détails sur la possibilité d'une version décapotable. Et ça non. aussi, il y a eu beaucoup de rumeurs à une certaine époque.
Réalistement, ça avait peu de chances de voir le jour. Là.
Je m'excuse, mais c'est la voiture qui serait capable d'aller rivaliser avec la MX-5.
Ben oui, oui, oui. oui.
Maintenant, est-ce qu'on veut le faire?
Ben c'est ça. J'ai l'impression que chacun a son créneau. Puis, ce serait beaucoup de travail pour ce que ça pourrait rapporter finalement en dollars. Là.
Ben à l'échelle mondiale, je pense que c'est quand même une voiture qui pourrait avoir un certain succès. Mais par contre, vendre un 2,4 litres sur des marchés européens, c'est coûteux.
Oui, effectivement.
C'est plus ou moins évident.
Et bonne nouvelle, on garde la boîte manuelle.
Oui, j'espère.
Non, mais tu sais, il n'y a plus rien qui va m'étonner, moi.
Non, je sais bien.
Donc,
t'es sûr? OK, parfait.
Ben, pas loin.
Bon, on a dévoilé cette semaine sur le site du Guide de l'Auto les véhicules de l'année pour chacune des catégories. Alors, on vous invite à aller consulter ça.
Voiture de l'année, hein, Polestar 2, qui est une belle surprise pour pas mal tout le monde. À part Denis Duquet, qui nous en parlait peut-être pas nécessairement bien la semaine dernière.
Qu'on salue.
Mais c'est correct. Hein, chacun pense ce qu'il veut bien. Donc,
Autant la Polestar est une voiture qui m'a impressionné, autant je me demande, après avoir conduit le XC40 Recharge, qui est basé directement sur cette voiture-là, comment on va réussir à en vendre? Et c'est une question quand même qu'il faut se poser parce que, bon, je vous donne l'exemple, une Polestar part à 69 900, on ne peut pas dire 70 000.
Ouais.
Le XC40 Recharge, qui utilise la même technologie, c'est 5 000 de moins. Donc, vous avez un VUS plutôt qu'une voiture qui coûte 5 000 de moins, qui a la même puissance, la même autonomie, le même niveau d'équipement, qui a un look assez intéressant aussi. La Polestar se démarque à ce niveau-là également, mais c'est la même plateforme, la même technologie. Il n'y a pas de plus-value chez Polestar versus chez Volvo. Donc, vous économisez 5 000 chez Volvo. En plus, vous avez déjà accès à un réseau de concessionnaires parce que c'est déjà en place ce que Polestar n'a pas, parce que Polestar part de zéro.
Mm-hmm.
Alors, pourquoi moi, demain, j'irais m'acheter une Polestar, outre pour le fait que je serais tombé en amour avec le look de la voiture.
Ouais.
On s'entend que c'est niché, là. Alors,
j'ai vraiment hâte de voir
comment Polestar va se défendre. D'autant plus qu'en parlant avec les gens de Volvo, on me disait à l'oreille que c'est pas impossible qu'on travaille une version peut-être un peu plus dénudée qui pourrait être vendue sous la barre des 60 000, ce qui permettrait à Volvo d'avoir un XC40 Recharge éligible au crédit gouvernemental provincial de 8 000.
Donc, et là ça deviendrait franchement intéressant.
Le 60 000 devient 52, en fait 53, là. Considérant les taxes incluses. Bon, alors, ça commence à être pas mal plus intéressant. Ouais. Puis, on rentre directement dans les dents du modèle Y avec ça. Évidemment, avec moins d'autonomie, parce que l'autonomie est à 335.
Avec une construction un petit peu plus solide, là.
Écoute.
Et un raffinement qui était un peu plus présent.
On reviendra pas là-dessus.
Non. Et sinon, rapidement, dans les véhicules utilitaires, ben, sans grande surprise, c'est le Toyota RAV4 Prime.
Ouais.
Et dans les camions de l'année, finalement, c'est une grande famille. C'est les nouveaux utilitaires. À pleine grandeur de chez GM. General Motors.
De GM. Alors, salutations à Daniel Breton, avec qui on parlera dans quelques instants.
De véhicules un peu moins polluants que ces mastodontes.
Oui, parce que bien que ces véhicules-là soient très impressionnants pour l'ensemble de l'œuvre, la déception, et ça, on n'en parle pas beaucoup.
Ouais, c'est qu'il n'y a pas d'hybride.
Un, puis deux, ils consomment plus que la génération précédente.
Ouais.
Les cotes de consommation sont supérieures à celles du modèle de précédente génération. Alors ça...
C'est rare pour un véhicule qu'une génération plus récente consomme plus que la précédente.
Oui, c'est ça, avec une motorisation qui est similaire.
De nos jours, là, d'habitude, c'est le phénomène inverse qu'on observe.
Oui, c'est ça. Germain, véhicule de la semaine, tu vas nous parler de ton Jeep Gladiator que tu es allé conduire en Gaspésie.
Oui, grand périple. Hein, je suis parti de Montréal pour me rendre jusqu'au bout de la Gaspésie dans un véhicule très, très, très confortable et très, très, très insonorisé.
Comment va ton dos?
Ça va. Pour vrai, le support des sièges est là. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment le véhicule qui est flou, hein, finalement, sur la route. Tu dois toujours corriger. Et c'est une version Mojave, hein, et donc avec des pneus plus grands, des suspensions conçues pour le hors-route. C'est très, très, très sensible au vent.
Mais c'est un super beau jouet.
C'est un jouet incroyable. Vraiment, tu as l'impression de pouvoir aller finalement n'importe où. Oui, tu as un sentiment de supériorité sur la route avec ce camion-là. C'est un Tonka, c'est un jouet. Trouve le mot que tu veux. C'est vraiment une bébelle incroyable. Boîte manuelle.
C'est solidement construit quand même.
Pour vrai, j'ai l'impression que c'est capable d'en prendre, là.
Ouais.
Vraiment, vraiment.
Ouais.
La version que j'ai conduite était équipée de la boîte manuelle.
Mm-hmm.
Puis comme je t'en avais glissé un mot cette semaine dans notre live Facebook, et j'en fais la confidence aux auditeurs ici, c'est peut-être pas ce que je choisirais comme boîte. Je pense que je prendrais l'automatique. Parce que... Je sais qu'il faut en profiter.
C'est
là,
tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs.
Non, mais je sais qu'il faut profiter des boîtes manuelles pendant qu'elles sont encore présentes, mais franchement, dans le Gladiator, j'ai l'impression que ça n'apporte rien.
Ben, c'est ça. C'est son côté hardcore, c'est le côté
voilà.
puriste.
C'est comme mais... ça qu'il faut le voir.
Ouais.
Mais chose est certaine, essayez le véhicule, là, si c'est ce que vous voulez acheter, parce que vous pourriez finalement réaliser que la version en boîte automatique... Ben, ça fait le travail et ça répond aux besoins. Donc,
Et ça risque de mieux se revendre aussi le jour où vous voudrez
peut-être, la revendre.
Ouais, peut-être. Mais enfin, bref.
Mais tout ça pour dire que c'est un camion incroyable, vraiment. Mais et on finit par oublier ce défaut.
Oh, c'est, à partir du moment où tu comprends
oui, voilà.
à qui t'as affaire.
Voilà, bon. Voilà. Donc, les cartes sont très claires là, sur la table.
72 000 $?
Oui, on est au-dessus de 70 000.
Un bon deal. Hein?
Encore là, ça reste beaucoup de sous, mais voilà.
Ben, t'en veux-tu beaucoup de sous? Alors, moi, j'ai deux véhicules qui avoisinent les 100 000 $ à te parler aujourd'hui. C'est pas des farces, on est rendu là. Alors, le premier, c'est un Ford F-150. Tiens-toi.
Oui.
Ford F-150 Limited.
2021,
avec la motorisation Power Boost, qui est une sixième motorisation. Alors, je vais vous les énumérer en rafale. V6 de 3,3 litres, V6 2,7 litres EcoBoost de 325 chevaux, le V6 de 3,5 litres EcoBoost puissance majorée à 400 chevaux. Même chose pour le V8 de 5 litres qui fait 400 chevaux également en 2021. On a le moteur PowerStroke 250 chevaux, donc 3 litres diesel, 250 chevaux, 440 livres-pieds de couple, qui est une motorisation pour moi très intéressante. Et finalement,
Vous écoutez toujours, il y a une version hybride
oui,
qui s'ajoute.
Exactement. Alors, Power Boost, qu'est-ce que c'est? C'est une version hybride 100%. Puis je dis 100% parce qu'on se souviendra que GM avait amené
oui.
Ce qu'on appelait des mild hybrids là, il y a une dizaine d'années dans ses camions Silverado Sierra.
Un franc succès.
Ouais, c'est ça. Ben, écoute, pour l'époque, oui, honnêtement... Oui. Tu consommais quand même pas mal moins que les V8 qu'on proposait traditionnels. Sauf que tu n'avais plus de capacité de remorquage, tu n'avais pas de capacité de charge, il y avait beaucoup d'handicap. Puis on a retiré ça du marché assez rapidement dès qu'on a amené des transmissions un peu plus modernes pour compenser. Sauf que là, on a une motorisation hybride qui, selon Ford, peut faire en sorte qu'on a une consommation d'essence équivalente, carrément équivalente à celle du moteur diesel PowerStroke, mais avec une puissance de 430 chevaux et 570
Ça, c'est énorme, là.
C'est très, très puissant. Honnêtement, j'ai conduit le véhicule. D'abord, bravo pour la transition. C'est-à-dire que tu roules en mode électrique et tu passes au mode à essence et tu le sens à peu près pas. C'est très linéaire comme transition. Alors ça, c'est la technologie est intéressante. C'est drôle parce que quand tu roules en mode électrique, il y a une espèce de sonorité très curieuse que tu entends là-dedans, mais ça demeure un camion vraiment impressionnant pour la puissance. Est-ce que je peux te dire que je sens que c'est vraiment beaucoup plus performant que le V6 3.5 EcoBoost ouais. traditionnel? Difficile à dire, mais dans l'ensemble, c'est un camion qui m'a vraiment impressionné, mais je n'ai pas réussi à aller chercher les codes de consommation qu'on avait annoncés. Il bon. Faisait moins 5 degrés, puis j'ai fini à 12.7, 12.8. Là.
Moins 5, là, on n'est pas dans une tempête à moins
ça.
20, là.
Fait qu'on est pas à 9.8 comme on annonce, mais toujours est-il que pour ce que le camion est capable de faire, c'est pas pire. Puis on annonce une capacité de remorquage avec cette version-là à 12 700 livres, 14 000 livres si tu t'en vas dans un 3.5 EcoBoost et une capacité de charge de 3 250 livres.
Okay.
Là, on a ajouté, nouveau poste de conduite, là, le temps nous manque, là, mais nouveau poste de conduite, nouvelle console, super bien pensée, l'écran de 12.1 pouces, beaucoup mieux fait que dans le RAM, le panneau arrière, le battant arrière, pour ne pas dire la télé. Le Gate, ben, on a intégré une planche de travail là-dessus avec des tableaux de mesure. Vous pouvez brancher des accessoires sur le 240 volts dans la caisse. Bref, on a pensé à tout, mais le camion que j'ai conduit était 95 575 $. Alors, quand même pas
ça
donné.
Ça fait mal.
Et l'autre véhicule que j'ai conduit qui avoisine les mêmes prix, on est à 103 000 $, c'est le GLE 53 AMG de Mercedes. Je trouve que c'est un camion magnifique. Au look, on l'a réussi. C'est le plus beau ML ou GLE, appelez ça comme vous voudrez, qu'on a fait. Mais j'ai été un petit peu déçu. Tu vois, j'ai roulé 600 km avec le véhicule. C'est une version hybride aussi. Mm-hmm. Donc, une hybridation qui pour la performance. Ça fait 429 chevaux.
EQ Boost, hein?
Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça fait 429 chevaux pour une consommation moyenne combinée de 11,6 litres au 100 pour un véhicule qui est très rapide là, et qui se compare à un BMW M50i, par exemple, là, okay. X5, en termes de performance. Ça va bien. Je peux pas dire que la qualité de fabrication m'a déçu parce que c'était le cas de certains autres produits Mercedes que j'ai conduit récemment. Alors, un camion très solide, très belle présentation. Je me suis beaucoup familiarisé avec le système MBUX de Mercedes, donc
oui.
Gros écran tactile.
Franchement, j'ai eu un gros coup de foudre, moi, pour ça.
Je l'ai étudié pas mal et j'aime bien, honnêtement, c'est vraiment bien fait.
Ouais.
Mais tu passes ton temps à corriger. Les pneus sont très larges. Puis la direction, elle ne revient pas d'elle-même. Il faut que tu te battes avec un peu. Puis c'est le point qui m'a vraiment déçu. C'est la direction de ce camion-là. Mais sinon, quand même, une machine assez impressionnante. Alors, voilà. Puis écoute, au retour, rapidement, on parle de ma chronique en fin d'émission. C'est-à-dire, on va parler de ma chronique sur...
les Minounes!
Sur les Minounes, parce que ça commence à être un sérieux problème.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, on le mentionnait un peu plus tôt dans l'émission, grosse annonce de la part du gouvernement concernant l'interdiction de vendre des véhicules à essence dès 2035. Évidemment, pour en parler, Daniel Breton, qui dédie sa vie aux voitures électriques, on peut-tu dire ça comme ça? Salut Daniel.
Bonjour Daniel, bienvenue parmi nous.
Bonjour, messieurs. Effectivement, on peut dire ça.
On peut dire ça. Daniel, d'abord, je vais avoir tes premières impressions sur cette annonce du gouvernement qui est faite, quoi, 14 ans avant l'échéance, là, quand même.
Oui. Bien, ce que les gens doivent comprendre, c'est que moi, je pense que c'est une bonne idée de donner ça 14 ans avant l'échéance pour qu'il n'y ait personne qui puisse dire on n'a pas eu le temps de voir venir ça. Et évidemment, on ne passera pas de 2 % à 100 % maintenant, puis 2035, sans qu'il y ait une graduation. C'est-à-dire qu'on parle d'une loi zéro émission qui va devenir de plus en plus exigeante au fil des années. C'est des exigences pour 2025, pour 2030, 2035.
Ouais.
Donc, il va y avoir une progression, ce qui veut dire que, je ne sais pas si vous êtes au courant, messieurs, mais il y avait un objectif de vente de 100 000 véhicules zéro émission pour la fin de l'année 2020.
Qui n'a pas été atteint.
Bien, en fait, qui va être raté par un mois. C'est-à-dire qu'on va arriver
quand même.
À l'année 2020 à 95 000 véhicules à peu près.
OK.
Fait que n'eût été de la pandémie, on aurait atteint notre objectif de 100 000 véhicules de réduction.
Ben, achète la balance, Daniel.
Ouais, un petit 5 000 Kona électrique, là.
Ben oui.
Hein?
Ouais.
Non,
mais bref, ça pour dire que, d'abord, non seulement, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais là, le Québec va se démarquer puis il va être à part, mais pas tant que ça, parce que la Californie a annoncé ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais New Jersey puis l'État de New York aussi veut s'en aller dans cette direction-là. Puis tous les États zéro émission, surtout avec l'élection de Joe Biden, on est rendu à 12 États zéro émission.
C'est pas sûr qu'il a gagné, Daniel.
Ah ouais, ça c'est un autre débat. Mais sans vouloir réduire le peuple que nous sommes, c'est pas un peu prétentieux quand même de la part du Québec de prendre le micro finalement et de dire ben nous ici c'est comme ça que ça va fonctionner face à une industrie automobile qui elle est mondiale. Là.
Oui, sauf qu'on parle d'un marché nord-américain, et comme je vous dis, dans le marché nord-américain, il y a déjà une loi zéro émission dans à peu près 35 % du marché nord-américain, du marché américain. Il y a la Colombie-Britannique qui a annoncé sa propre loi zéro émission pour 2040, il y a de ça 2-3 mois. Puis il y a même des discussions d'une loi zéro émission fédérale ces temps-ci à la Chambre des communes. Je témoigne la semaine prochaine exactement sur ce sujet-là.
Bon, évidemment, on sait à quel point, tu sais, on le voit, là, je vais te donner l'exemple. En ce moment, là, je suis présentement à faire l'essai d'un festival de gros VUS et de camions GM, Cadillac Escalade, tout ce que tu voudras. Et GM n'a pas freiné la production de ces véhicules-là. On veut en vendre, on veut en produire, on fait tout ce qu'il faut, on nourrit les journalistes avec tout ce qu'ils ont besoin pour mettre ces véhicules-là en lumière. Puis quand il est question d'un véhicule plus secondaire ou électrifié, on fait des belles annonces, mais il n'y a rien de tangible. Tu sais, je veux dire, attends de voir le Cadillac Lyriq, ça va être extraordinaire. Attends de voir ce véhicule-là, ça va être génial.
Oui, on va attendre, puis on va attendre longtemps.
Tu sais, puis là, fait intéressant, puis là, je ne veux pas m'écarter du sujet, là, mais je fais juste glisser ça un peu. J'essayais cette semaine le Volvo XC40 Recharge, 65 000 $. Là, en parlant aux gens de Volvo, ouais, on pourrait peut-être essayer de sortir une version un peu plus bas de gamme qui serait sous la barre des 60 000, ce qui nous permettrait de profiter d'un crédit gouvernemental comme la Ford Mach-E, mais qui est retardée elle aussi pendant que Ford lance son F-150 2021 à grand coup de publicité monstre. Fait que l'industrie automobile nord-américaine, on veut vendre des camions pleine grandeur. C'est ça qui est payant. C'est pas un secret pour personne. Puis tu peux pas aller à l'encontre du vouloir de ces entreprises-là qui vendent ces véhicules-là à volume si élevé. Comment est-ce que on va être capable, en disons 5 ou 10 ans, de changer les mentalités des Nord-Américains, autant des gens qui vivent ici au Québec, qui sont déjà plus enclins à s'intéresser à la voiture électrique pour toutes les raisons qu'on connaît, que quelqu'un qui vit en Géorgie ou au Texas, où le véhicule familial moyen, c'est un Super Duty, là. Fait que, tu sais, on est dans un... Il n'y a pas un constructeur automobile qui va développer des véhicules en fonction de micro-marchés comme le nôtre, là.
Ben non, mais c'est là où je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le Québec n'est qu'un des marchés qui s'enligne vers les véhicules zéro émission, c'est-à-dire que quand la Californie s'engage avec une loi zéro émission pour 2035 à 100%, c'est pas un micro-marché.
Non.
Quand l'État de New York s'engage, c'est pas un micro-marché. Quand tu rajoutes les 12 États zéro émission qui veulent suivre la tendance de la Californie, c'est loin d'être un micro-marché. On parle de plus de 100 millions d'habitants dans ces marchés-là.
Ouais.
Si tu ajoutes la Colombie-Britannique puis le Québec, donc dans un contexte nord-américain, il y a déjà cette espèce d'influence-là. Là, rajoute ensuite, évidemment, le marché européen où les ventes de véhicules de révolution ont représenté à peu près 12% des ventes totales à l'automne 2020. Tu parles évidemment du marché chinois, le marché coréen. Donc, d'un point de vue mondial, il y a de plus en plus de marchés qui ont des exigences de plus en plus sévères par rapport à l'adoption de véhicules de révolution. Première des choses. Deuxième des choses, quand tu dis « on peut pas », genre, forcer les constructeurs, ben la réponse, c'est oui, on peut.
Non, mais je parle... on peut si tout le monde s'entend sur une même règle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une règle de pareil en ce moment. Je veux dire, quand je dis « on peut », c'est le Québec. Le Québec ne peut pas forcer GM à fabriquer des...
Tu sais? Je vais te faire une confidence, là. C'est moi qui ai suggéré au ministre de s'aligner sur l'objectif de Californie. Parce que j'ai dit, si on va...
Ce qui est tout à fait logique, là, ouais.
Ben, c'est ça. Parce que les constructeurs ne pourront pas dire, ben, il y a juste le Québec qui s'en va vers cet objectif-là. Je dis, non, en vous appuyant sur la Californie, New York, New Jersey et d'autres marchés, vous pouvez dire, écoutez, il y a une masse critique de véhicules qui doivent être fabriqués puis livrés en Amérique du Nord pour répondre à cette demande-là. Première des choses. Deuxième des choses, en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'ils ont annoncé cette semaine?
Ouais, 2030.
100% 2030. On ne parlera pas de la Norvège à 2025, les autres sont sur une autre planète. Mais l'idée là-dedans, c'est de dire, oui, il y a un marché qui se développe. Et je trouve toujours ça intéressant de voir des constructeurs automobiles qui nous... Parce que toi, tu en parles, toi aussi, Germain, qui nous mettent à coup de renfort de publicité des annonces comme quoi ils investissent 20, 30, 40, 50 milliards
oui.
pour le développement de véhicules électriques.
Oui.
Et après ça, on leur dit, ben, ça tombe bien, justement, vous allez avoir un marché pour accélérer votre retour sur investissement parce que vous allez pouvoir en vendre plus. Tu dis non, ben pas trop vite, il faudrait s'entendre.
Ah, puis ça a été simultanément...
Le plus vite possible.
Oui, puis ça a été simultanément l'annonce des trois constructeurs nord-américains pour le marché canadien où Ford a annoncé qu'on investissait massivement dans l'usine d'Oakville. Même chose pour Chrysler du côté de Windsor. Puis GM, je me souviens plus de l'annonce de GM.
Aux États-Unis.
GM, on réouvre, là, c'est ça. GM, on fabrique des pick-up au Canada.
Ben, c'est ça. À Oshawa, oui, on relance l'entreprise et
En même temps, des pick-up, on va toujours en avoir besoin. Là. C'est pas,
Oui. Mais la demande est de plus en plus grande. C'est peut-être ça qui est contradictoire. On parlait, Daniel, là, de l'objectif de 100 000 véhicules là, pour 2020 qui sera peut-être pas tout à fait atteint ou ça va dépasser d'un mois. Est-ce que c'est pas un peu audacieux d'imaginer que d'ici 2030, on va avoir 1,5 million de véhicules électriques?
Écoute, quand en 2010, on parlait de 100 000 véhicules zéro émission, tout le monde trouvait qu'on était fou. Tout le monde disait, voyons donc, 100 000 véhicules zéro émission. Là, je veux dire. Écoute, on était en 2014, on avait 7 000, 8
000. Ouais.
Les ventes ont augmenté de façon exponentielle. Puis il ne faut pas oublier qu'en 2010, il n'y avait aucun véhicule zéro émission sur les routes. Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun modèle offert.
Oui, oui, tout était à construire. Mais là, c'est sûr que...
Il y avait quelques Jaguars, en fait, parce que les Jaguars étant sur le bord de la route, ben ils n'émettaient rien.
Ils n'émettaient pas grand.
Sinon, il n'y avait rien.
Mais, c'est... oui, c'est ça.
Mais en fait, l'objectif d'1,5 million, sur le plan logistique, si tu prends la vitesse d'augmentation du parc automobile actuellement, ça ne fait que suivre son cours. Donc, ça pourrait être logique. Là où moi, je vois un problème...
Mais c'est qu'en ce moment, c'est subventionné. On a dit que ça allait continuer à l'être. Mais pour combien de temps? Certainement pas jusqu'à 2030, parce que c'est pas vrai qu'on va pouvoir subventionner à cette mesure-là 1,5 million de véhicules.
Oui. Daniel, tu as une réponse là-dessus?
Ben oui, j'ai une réponse. C'est que là, on prévoit qu'un prix d'un véhicule électrique versus un véhicule à essence vont être à peu près équivalents aux alentours de 2024, 2025, 2026. Donc,
comment vous pouvez prévoir ça?
Moi-même, à partir de toutes les avancées qui se font dans le développement des batteries, qui font en sorte que, et d'ailleurs, GM a même émis un communiqué de presse là-dessus hier, comme quoi ils ont dit qu'ils vont être capables de diminuer le prix des batteries à l'horizon 2020. Si je ne m'abuse, de 65% et de doubler la densité énergétique des batteries. Tesla a annoncé quelque chose de similaire. Les développements et les recherches qui se font à Dalhousie University en Nouvelle-Écosse, à l'IREC au Québec et ailleurs au Canada vont exactement dans le même sens. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on aura des véhicules qui vont être à peu près au même prix, équivalent, 2024, 25, 26, dépendant de la catégorie de véhicules.
Donc, si on prend par exemple...
Deux secondes, messieurs, j'ai pas fini. Donc, si on est logique, ce que ça veut dire, c'est que c'est tout à fait envisageable, et moi, je pense que ça a du sens, qu'on diminue graduellement le rabais à l'achat de véhicules électriques pour en venir à un point où il n'y aura plus besoin de rabais d'ici 5 ou 6 ans.
OK. Puis, je veux dire, oui, de façon graduelle, là, on sait qu'on va ramener les crédits tels qu'ils le sont présentement pour 2021. Puis après ça, tranquillement, ça pourrait baisser au fil des années. Ça, c'est ton opinion. L'affaire, par contre, c'est que tu dis que les véhicules électriques vont voir leur prix abaisser pour équivaloir à ceux d'un véhicule à essence traditionnel. Actuellement, ce qu'on voit, là, Daniel, là, c'est qu'il y a une trollée de nouveaux modèles électriques qui arrivent sur le marché, mais ce sont tous des véhicules hors de prix.
Parce que si on pense là au consommateur moyen qui a un salaire moyen, qui vit dans une maison moyenne de banlieue et qui veut, lui, pour différentes raisons, dont l'idée de faire sa part pour l'environnement, entre guillemets, lui, il n'y a rien qui s'offre à lui dans les nouveautés qui sont présentées. GMC Hummer EV, Cadillac Lyriq, Polestar 2, Tesla Model Y, Tesla Cybertruck, c'est toutes des nouveautés des derniers mois et il n'y a rien que le consommateur moyen peut se permettre là, là-dedans.
Je suis d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, j'ai même fait cette critique-là il y a quelques semaines sur les médias sociaux. Et moi, je pense que la Volkswagen ID.4 va contribuer à changer la donne. Puis l'arrivée d'autres modèles de constructeurs qui vont être plus traditionnels, comme ceux de GM, vont aider parce qu'effectivement, tu sais, moi, un Hummer à 120 000 d'abord, je trouve ça ridicule. Là, je veux dire, pour la plupart des gens, c'est totalement inutile. C'est une bébelle comme un Cybertruck.
Ah, mais c'est un jouet. C'est un stunt publicitaire, ce véhicule-là. On s'entend. Le fait qu'il soit électrique, c'est presque secondaire. Puis en fait, j'ajouterais même à ça que Là, en ce moment, il y a un engouement, par exemple, pour la Porsche Taycan. Un engouement avec raison, parce que c'est une voiture exceptionnelle. Mais il y a bien des gens qui achètent ça pour ce que ça représente, pour l'aura du véhicule. Non pas parce que c'est un véhicule électrique puis que c'est plus propre qu'un autre.
Complètement.
Alors, tu sais...
Parce que c'est un objet technologique.
Deux secondes. Mais il y a beaucoup de gens qui achètent une Porsche à essence parce que c'est un symbole puis c'est une aura aussi.
Oui, aussi.
Non, sauf que je dis ça parce que actuellement la Porsche Taycan est la Porsche la plus vendue mondialement. C'est pas des farces. On en vend plus que des Macan puis des Cayenne à l'échelle mondiale. Fait que c'est quand même pas rien, là.
Oui. Mais vous avez raison de dire que, tu sais, le virage se fera pas tout seul. De dire que ça va se faire genre sans effort par le gouvernement, ça, c'est, je suis pas d'accord. Parce que le gouvernement doit mettre de la pression. Puis ça va faire en sorte aussi qu'au Québec, on va fournir des véhicules qu'on ne veut pas fournir ailleurs où il n'y a pas de loi sur l'émission. Tu sais, le RAV4 Prime, là, qui est en petite quantité, ben il n'est pas en petite quantité en Ontario, Manitoba, en Saskatchewan, il est en zéro quantité.
C'est ça.
Donc, au fur et à mesure où les ventes vont augmenter, il faut toujours garder en tête que la façon dont les constructeurs pensent le marché canadien, ils disent, nous autres, les véhicules électriques, on va les envoyer là où ils se vendent. C'est presque 50 % du marché actuellement qui est au Québec.
Ouais.
Et donc, les concessionnaires...
Et je me permets de te dire que si tu exclus de ça les véhicules de 100 000 $ et plus, t'es probablement rendu à 75 % du marché. Tu sais, parce que les véhicules électriques qui se vendent en dehors du Québec à l'échelle canadienne, c'est souvent des véhicules de très grand luxe, là. Mm-hmm. Et Audi e-tron et compagnie.
Non, pas en Californie, pas en Colombie-Britannique.
Ouais, OK.
En Ontario, oui. Mais pas en Colombie-Britannique.
OK.
Mais ce que je peux dire, cela dit, c'est que moi, je pense que ça va être beaucoup plus facile que ce que les constructeurs et les associations de concessionnaires prétendent. Parce que j'ai entendu Robert Poëty dire il y a quelques jours que 80 % des véhicules électriques qui circulaient au Québec étaient à Montréal et à Québec. Puis on a fait le calcul avec les gens de l'AVEC, là.
Ouais.
La réalité, c'est que les gens... le nombre de véhicules électriques qui sont immatriculés à Québec et à Montréal, ça représente entre 20 et 25 %.
Pas plus que ça.
Il y a 75 et 80 % des véhicules électriques qui sont à l'extérieur de Montréal et à l'extérieur de Québec. Pour une raison fort simple, c'est que...
Ben, tu peux te brancher.
C'est plus difficile de se brancher.
C'est ça. Mm-hmm. Ben oui.
Alors que si tu restes en banlieue ou en région, moi je reste en région, je veux dire, écoute, à tous les jours, moi, je vois de nombreux véhicules électriques qui passent du traversier, là, parce que moi, je reste à côté du traversier.
Ouais.
Ben, tu sais, écoute, on est entre Sorel puis Berthierville, là, je veux dire, on s'entend-tu qu'on n'est pas à Montréal ou au Québec? On est en campagne. Fait que, bref, le marché des véhicules électriques en région est un marché qui va aller croissant, puis avec l'arrivée des VUS puis des pick-up électriques et hybrides rechargeables, mais ça, c'est un marché qui va aller en croissance continuelle. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi, ça, c'est une des choses chez Mobilité électrique Canada pour lesquelles on a plaidé. C'est que présentement, l'admissibilité au rabais est limitée, on va se dire, aux voitures. C'est-à-dire que les gens arrivent avec des pick-up qui sont un peu plus chers, des VUS sont un peu plus chers.
Ouais.
Mettons, là, qui dépassent, tu sais, qui sont entre 50 et 70 000 $ ben, il va y avoir plusieurs pick-up et VUS qui vont être dans cette fourchette de prix-là.
C'est sûr.
Ben, nous, on a plaidé pour qu'on augmente le plafond d'admissibilité pour que les gens qui ont besoin d'un pick-up ou d'un VUS pour leur travail, par exemple, puissent avoir droit au rabais parce qu'il y a une certaine inéquité dans le fait que les gouvernements vont dire, ben, écoute, si tu as besoin d'une voiture, tu as droit à un rabais. Si tu as besoin d'un pick-up, tu n'as pas droit à un rabais.
Ben oui.
Mais toujours est-il que quand on se paie un véhicule de 60 ou 70 000 $ on crée une injustice, et je reviens toujours avec cet exemple-là, d'un parent monoparental qui a de la misère à rejoindre les deux bouts, qui s'achète une minoune à 4-5 000 $ Cette personne-là n'a aucune aide de personne, mais toi, le bourgeois qui veut se payer un véhicule à 70 000 $ tout va bien.
Germain. Je pense que t'es pas au courant qu'il y a un rabais pour les véhicules électriques d'occasion de 4 000 $
Oui, je comprends que c'est là, mais là, on arrive avec un autre problème. C'est que les véhicules électriques périment extrêmement rapidement. Qui veut aujourd'hui d'une Focus électrique ou d'une Leaf, d'une Leaf de première génération? C'est franchement pas attrayant.
Non, c'est pas attrayant, mais là, on est rendu avec des Ioniq, des Bolt, qui sont admissibles au rabais, qui sont des véhicules attrayants. Tu sais, c'est pareil comme si tu me disais, ben écoute, j'aurais voudrais s'acheter une Mitsubishi e-Miève électrique qui a peu de kilométrage. Écoute, c'est comme la Ford Model T des véhicules électriques.
On salue Pierre Nantel au passage.
Oui, qui en possède une.
Oui, exactement.
mais là où je veux en venir, c'est que tu as raison, c'est qu'il y a des modèles qui sont moins attrayants que d'autres dans des véhicules d'occasion, mais il y en a qui sont attrayants. Pareil comme dans l'occasion, il y a beaucoup de véhicules à essence que tu ne veux pas toucher dans les véhicules d'occasion.
Ah, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, tout ce qui s'appelle première génération de voitures électriques, bon, les Nissan, ils ont eu des problèmes de batterie, on le sait. Les e-Miev, ben, c'est pas qu'ils ont eu des problèmes de batterie. Tu fais 100 km, puis c'est ça. C'est ça, bon. Puis Focus électrique, tu sais, moi, je donne encore l'exemple d'un ami qui, en 2017, s'est acheté une Focus électrique à 32 000 $ avec 170 km d'autonomie. Elle essaie même pas de revendre ça aujourd'hui, puis c'est financé sur 7 ans, cette voiture-là. Là. Fait que ouais. Ça, c'est une voiture avec laquelle de laquelle il est à peu près pas capable de se défaire. Là.
Fait que, oui, sauf que rendu en 2017, quand tu t'en vas de 2017 en montant, les véhicules d'occasion comme les Bolt, les Kona,
absolument,
vont demeurer des véhicules,
ouais,
extrêmement intéressants dans les mois et les années à venir.
Absolument.
Même d'occasion.
Oui, absolument. Ben, même les Chevrolet Volt de dernière génération,
oui,
sont en,
oui,
forte demande chez nous.
Complètement.
Parce que pour moi, ça demeure encore une formule très intéressante. Mais tu sais, je reviens avec le débat qu'on a déjà eu, toi et moi, Daniel. Une hybride rechargeable, selon moi, ne peut pas avoir droit au même crédit qu'une voiture 100% électrique pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas contrôler l'utilisation qui en est faite. Puis il y a plein de gens qui ne branchent pas ces voitures-là puis qui roulent de façon normale sans rouler en mode électrique, tu sais.
Dont des gens du gouvernement.
Oui, voilà, ouais, qui sont mal placés, placés eux-mêmes, là.
Oh, oui, puis d'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a un débat ces temps-ci avec le gouvernement du Québec, à savoir quelle valeur on va accorder, pas aux rabais. Je ne parle pas des rabais à l'achat, je parle de la valeur des crédits,
ouais,
que les gouvernements doivent accumuler pour atteindre leurs objectifs par constructeur. Puis là, il est question ces temps-ci de faire en sorte de diminuer x4 la valeur des crédits pour les véhicules 100% électriques et de diminuer x2 la valeur des crédits pour les véhicules hybrides rechargeables. Donc, ça veut dire que, toute proportion gardée, le véhicule hybride rechargeable aurait maintenant plus de valeur au prorata par rapport à ce qu'il y a actuellement qu'un véhicule électrique. Et là, moi, je fais partie de ceux qui disent ça pas de bon sens. Tu sais, c'est comme si, aux yeux du gouvernement, ben, si tu vends, mettons, deux voitures hybrides rechargeables, ben, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ça équivaut à une voiture électrique.
Ce qui est carrément l'effet contraire.
Là. Non, ben, puis d'autant plus qu'en conditions réelles, non seulement il y a beaucoup de gens qui les branchent pas, mais même quand tu les branches et que tu roules en hiver à 10 sous zéro, 20 sous zéro, ton moteur à essence va partir régulièrement.
Ben oui. Ben oui. Absolument. Puis, je veux dire, tu n'as pas la même polyvalence avec ce genre de véhicule-là qu'avec une électrique au niveau des recharges. Si tu fais un Montréal-Québec, comme j'ai fait la semaine passée avec un RAV4 Prime, ben tu te rechargeras pas pour faire ton 70 km sur une borne de 400.
Tu vas faire les 70 premiers en électrique parce que tu vas partir de chez toi. Puis après
passant, je peux te dire qu'à 5 degrés, moi, c'est plus 45 km que j'ai fait là.
Puis après ça, ben, tu roules sur l'essence, là, tout simplement.
C'est ça.
Simplement.
Fait que,
Oui et non, dans le sens que oui, tu roules sur l'essence, mais tu roules en mode hybride.
Oui, oui, oui.
Ben, tu roules en mode hybride, mais sur l'autoroute, tu roules en essence.
Ouais.
C'est ça.
Mais quoi qu'il en soit, tu sais, moi, je veux pas non plus dénigrer les véhicules hybrides rechargeables parce que je pense que pour beaucoup de gens, c'est une transition considéré comme nécessaire parce que des gens qui ont des craintes par rapport aux voitures 100% électriques.
Et ça répond aux réels besoins de certains individus aussi, là.
Ah oui, absolument, exactement. Moi, je pense qu'il y a une utilité encore pour un bon bout.
Absolument. Ben, je veux dire, moi,
mais de là, le subventionner à la mesure ou à la hauteur qu'on le fait présentement, c'est peut-être injuste.
C'est ça. C'est qu'une Chrysler Pacifica plug-in hybrid puis un RAV4 Prime qui ont droit aux mêmes crédits gouvernementaux qu'une Chevrolet Bolt, ça n'a aucun sens. À mon avis, ça n'a aucun sens. Mais bon...
D'ailleurs, au fédéral, j'avais appelé ça la clause Pacifica là, qui donnait un rabais spécial.
Ouais.
Pour un véhicule hybride rechargeable, 7 passagers, puis comme il y en avait juste un, ben, c'était la clause
spécifique. Oui, c'est ça, exactement. Daniel, j'aimerais ça en terminant que tu me parles un petit peu de ta vision de ce que pourrait être le parc automobile en 2035, parce que moi, j'ai l'impression que, bon, évidemment, l'annonce a été faite des véhicules de promenade, tout ce qui s'appelle véhicules commerciaux, ça sera exclu, là, mais...
Non, c'est pas vrai.
Ça, OK.
C'est une erreur. Non, ça, c'est une erreur. Parce que ça, c'est sorti dans la... c'est comme quoi les véhicules commerciaux et industriels seraient exclus de la loi sur les émissions. C'est pas vrai.
OK.
Donc, il a confondu véhicules.
Fait que là, tu viens-tu dire à tout le monde que je l'ai à la presse?
C'est exactement ce que je viens de te dire.
OK. Mais je pense que samedi passé, pas mal tout le monde dans l'automobile a lu la presse. Là.
Ben, c'est ça.
Ouais. Mais en fait, il y avait une erreur parce que moi, j'ai posé la question aux gens du gouvernement, puis la réalité, c'est pas ça. C'est qu'il a confondu véhicules commerciaux et industriels avec véhicules légers et lourds.
Ah bon?
C'est pas la même chose.
Okay,
ça veut
ben
dire
non.
que tu peux avoir, par exemple, un pick-up, un F-150 pour ta compagnie, ben tu vas ce pick-up-là, qui est un F-150, qui est un pick-up léger, même si c'est un commerce ou une industrie qui l'achète, ben ça va entrer dans la loi sur l'émission.
Donc,
les véhicules lourds ne seront pas dans la loi sur l'émission, okay. Mais il est question, parce que dans le document du gouvernement, il est question qu'ils mettent aussi en place une loi sur l'émission pour les véhicules lourds, comme ce qui est annoncé en Californie pour 2045.
Donc, okay. la réalité est encore, entre guillemets, plus sévère que ce qui a été énoncé, là.
Ben, pas ce qui a été énoncé par le gouvernement.
Non, mais par la presse. Oui, c'est ça. Okay.
Intéressant, ça. OK. Bon, ben, parfait. Fait que, écoute, Daniel, on va voir comment les choses vont continuer.
On risque de se reparler dans les prochains mois, ça, c'est certain.
Si la tendance se maintient, oui. Comme disait...
Non seulement dans les prochains mois, messieurs, dans les prochaines semaines.
Ah.
On y voit des nouvelles au niveau fédéral.
Ah, ben là, tu peux pas nous quitter comme ça, là.
Ouais.
tu reviendras.
Il dit, il y a son berger allemand à côté de lui qui le regarde puis qui fait, hey, dis rien.
Ouais,
mais.
Je prépare à manger mon hamburger.
Ouais, c'est ça. Bon, ben ça marche, Daniel. Merci d'avoir pris le temps et puis on se reparle sans doute très bientôt.
Merci, Daniel.
Parfait.
OK. Bye-bye.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, pour terminer l'émission, tu voulais qu'on parle de minounes et du fait qu'elles sont peut-être nombreuses et qu'on les surveille pas assez sur nos routes.
Bien, c'est pas tant les minounes que les lacunes d'entretien. C'est-à-dire que on se rend compte, bon, l'histoire commence, j'ai été faire changer mes pneus d'hiver, il y avait une voiture à côté de moi, une Nissan Versa 2014. Suspension ruinée, les freins complètement défaits.
Donc, quand on parle d'une minoune, on parle pas d'une tercelle qui aurait été entretenue, là,
non, avec
un peu de rouille sur les ailes. Là, on parle d'un véhicule
récent.
Voilà.
C'était un véhicule qui avait 7 ans, mais qui n'a jamais eu d'entretien, qui avait 160 quelques mille kilomètres et qui, là, avait besoin d'un sérieux entretien. Et la dame est rentrée au conseil avec un pare-brise brisé. Tout ce que tu voulais, là. Les pneus à la fesse, lisse comme de la peau de bébé. Puis la dame est rentrée au garage parce qu'elle avait un problème de transmission. Et le garagiste, évidemment, lui a dit, ben écoute, c'est parce que là, ça urge, faut que tu fasses tes freins, tu peux pas repartir comme ça. Ah, j'ai pas d'argent à mettre ces niaiseries-là, moi, là. Fais juste t'occuper de ma transmission, puis je repars avec ça. Fait qu'elle est partie avec le véhicule, puis deux semaines plus tard, elle est revenue parce qu'il y a un étrier de frein qui avait saisi. Puis, bon, toujours est-il qu'elle le fait quand ça brise.
Ouais.
Mais le problème que j'ai avec ça...
Et c'est pas un cas isolé, là. Non, on les voit circuler, là.
Bon, premièrement, les voitures... Les voitures qui ne sont pas entretenues, très souvent, ça commence d'abord par l'ensemble des véhicules qui sont loués. La majorité des gens qui vont louer des voitures font l'entretien minimum ou pas du tout.
Ben non, c'est pas leur véhicule.
C'est pas leur véhicule. Et ces voitures-là se retrouvent souvent sur un marché secondaire après retour. Si le concessionnaire les a pas repris parce qu'elles étaient plus belles que la moyenne, c'est envoyé à l'encan. On va faire un entretien minimum là-dessus pour remettre ça sur le marché rapide. Puis la voiture va continuer à se détériorer comme ça, tout dépendant qui va l'acheter et comment elle va être entretenue. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'entretien et que ce qu'il y a comme conséquence, c'est évidemment que ça peut causer des accidents, ça peut causer des drames quand même considérables.
Ben oui.
Puis moi, ça m'enrage quand on voit aux nouvelles des accidents graves ou des accidents mortels qui sont survenus avec la dernière phrase qui dit toujours l'alcool ou la vitesse pourrait être en cause ou les distractions au volant comme le téléphone cellulaire. C'est jamais la condition de la voiture.
Jamais.
Jamais pourtant, tu vas entendre ça. Et pourtant, on le sait très bien, des pneus finis, des freins qui ne marchent pas, une suspension trop molle, une voiture désalignée, je suis désolé, mais ça peut causer un accident très grave. Et ça, ben, il n'y a pas de loi pour ça. Et moi, je suis d'avis que la SAC, bon, évidemment, la SAC, ça en prend beaucoup là, avant qu'on bouge. Là.
Ouf.
Mais la SAC devrait légiférer là-dessus. Puis, non seulement la SAC devrait légiférer là-dessus, là, tu vas me dire, ouais, mais là, c'est encore de l'argent qu'on sort poches des contribuables pour faire des inspections mécaniques.
C'est nécessaire.
Je suis d'accord.
Et ça se fait ailleurs.
Et ça se fait ailleurs.
Donc, parce on n'invente rien.
Parce
là.
Que ici.
Et en
là,
plus, on a un climat qui est encore plus difficile qu'ailleurs. Donc, on devrait être encore plus sévère.
Puis, l'affaire, c'est qu'ici, les inspections mécaniques ont lieu en deux conditions. Si c'est un véhicule commercial ou un taxi, bon, ça c'est une chose. Mais si c'est un véhicule acheté hors province, tu dois passer une inspection mécanique, ou si c'est un véhicule qui n'a pas été immatriculé depuis plus d'un an. Mais autrement, une minoune qui n'a jamais été entretenue de sa vie, qui roule depuis 10 ans, 12 ans, n'aura jamais d'inspection mécanique et pourrait être solidement dangereuse.
Mm-hmm.
Alors, moi, je suis d'avis qu'on devrait faire passer une inspection mécanique chaque 2-3 ans à l'ensemble du parc automobile pour des voitures qui sont âgées, disons, de plus de 5 ans. Tu payes un frais de 125-150$ à un garage qui a été attitré pour le travail, mais en contrepartie, le garage lui-même devrait pouvoir débourser une partie de cette somme-là, parce que en faisant l'inspection, ça va amener de l'eau au moulin. L'AIA mentionne qu'il y a 2 milliards de dollars qui ne sont pas dépensés annuellement en entretien régulier.
C'est énorme.
Alors, en entretien minimum, ça veut dire qu'on regarde le parc automobile actuel, on est capable d'évaluer combien devrait coûter l'entretien de ce parc d'automobile-là, et il y a un manque à gagner de 2 milliards
parce
de dollars.
Évidemment que si tu mets ton véhicule au garage pour faire la dite inspection et qu'on te dit il y a ça à remplacer...
Peut-être faire une partie de la job. Ou en
ben
tout cas,
voilà.
Bon, tu comprends-tu? Alors, ces garagistes-là ont avantage...
Mais les garagistes ne manquent pas d'ouvrage non plus en ce moment.
Non, ben les garagistes ne manquent pas d'ouvrage. C'est encore drôle. Il y a beaucoup moins de voitures sur les routes depuis un an qu'il y en avait dans le passé.
Ça, c'est
alors,
vrai.
Les ateliers mécaniques et les carrossiers trouvent ça difficile, eux aussi. Mais toujours est-il qu'il y a certainement une solution qu'on peut trouver pour améliorer la sécurité sur nos routes en améliorant l'état général des voitures qui y circulent. Et ça commence par... faut commencer par une éducation de la population sur l'importance d'entretenir ces véhicules. Et il faut ensuite parler avec la SAC dans l'espoir de peut-être légiférer à ce sujet-là. Mais là, c'est un débat qui est ça loin d'être gagné.
Ça va prendre beaucoup d'espoir.
Oui, c'est ça. Tu sais, moi tu me couperais le prix de mon permis de conduire un peu, puis de mes immatriculations, puis tu me demanderais de faire une inspection sur mon auto. Tu sais...
Ouais. Il n'y en aura pas de problème.
Il y aurait une logique là-dedans. Améliorer la sécurité sur nos routes par l'amélioration des conditions des voitures. Il me semble qu'il y a une logique là-dedans.
Mais la logique, elle, n'est pas toujours là. Merci beaucoup, Antoine.
Salut.
Cube Radio.